l'émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions sur les violences meurtrières dans la bande de Gaza. Ces événements, vous le savez, ont suscité de nombreuses réactions à travers le monde. La Turquie et l'Afrique du Sud ont rappelé leur ambassadeur en Israël. Plusieurs pays comme la France ont condamné l'usage disproportionné de la force par les soldats israéliens. D'autres ont appelé à la retenue. Mais concrètement, que doit faire maintenant la communauté internationale? Qu'attendez-vous de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la Ligue arabe qui doit se réunir dans les prochaines heures au Caire, ou encore du Conseil de sécurité de l'ONU, paralysé, on l'a vu encore une fois hier, par le veto des États-Unis. Vos analyses, vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Vous continuez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions sur l'actualité. Ce matin, des questions sur les violences à Gaza, sur les dysfonctionnements du SAMU en France ou encore sur la Malaisie, où le nouveau Premier ministre est âgé de 92 ans. Mais d'abord, intéressons-nous au premier porte-avions 100% chinois. Bonjour Jocelyn.
Oui, bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, vous nous appelez justement de Chine, vous êtes dans la province de Canton, à Guangzhou exactement, nous vous écoutons.
Oui Juan, ma question porte sur le porte-avions chinois. Nous savons que la Chine vient de démarrer les essais de son premier porte-avions entièrement construit dans le pays. Quelles sont les caractéristiques de ce porte-avions et comment se distingue-t-il des autres et quelles sont les missions exactes de celui-ci?
Oui, la Chine qui franchit avec ce porte-avions une nouvelle étape dans la montée en puissance de sa marine. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, spécialiste des questions militaires à RFI. Premier porte-avions donc conçu et fabriqué par les Chinois. Concrètement, quelles sont ses spécificités?
Alors, au risque de vous décevoir, j'ai envie de vous dire que c'est un porte-avions assez classique qui vient de débuter ses essais, puisqu'en fait, il est très proche du précédent porte-avions qui était utilisé par la Chine, qui était le Liaoning, qui lui, en fait, était un porte-avions qui avait été acheté d'occasion à l'Ukraine. C'est l'ex-Varyag, donc un bateau qui à l'origine était destiné à l'URSS. Vous voyez que ça nous ramène quand même à la fin des années 90. Et donc ce nouveau bateau qui n'a pas encore reçu de nom de baptême, pour l'instant il s'appelle Type 001, voilà, assez énigmatique. Il est en fait très très proche de, c'est quasiment une copie de ce Liaoning, donc le premier porte-avions utilisé par la Chine, mais effectivement sur une base ukrainienne. Donc celui qui arrive maintenant, c'est un produit, on pourrait dire, 100% chinois, fabriqué dans les chantiers de Dalian.
Et c'est étonnant que la Chine parvienne à fabriquer son propre porte-avions?
Ben, en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, les Chinois, notamment dans le secteur civil, fabriquent déjà des bateaux de très gros tonnage, notamment dans ces chantiers de Dalian. Et puis finalement, là, j'ai envie de dire qu'ils n'ont eu qu'à copier, qu'à extrapoler ce qui s'était fait directement à l'époque par les Ukrainiens sur le Varyag. Au final, c'est un bateau qui est un peu plus gros que le porte-avions qu'ils utilisaient précédemment. Selon les infos officielles, il fait 315 mètres de long, 75 mètres de large, un tonnage de 50 000 tonnes, ce qui en fait le mettrait entre le Charles de Gaulle français et le Queen Elizabeth britannique qui vient juste de sortir, mais bien loin derrière les porte-avions américains qui eux peuvent aller jusqu'à 100 000 tonnes pour le Gerald Ford. Ce qu'il faut bien signaler, c'est que c'est un porte-avions à propulsion classique, c'est-à-dire des moteurs classiques comme sur les bateaux civils, et non nucléaire, et c'est un porte-avions qui est dépourvu de catapultes. C'est important parce que ça veut dire qu'en fait les avions qui sont emportés sur ce porte-avions ne peuvent s'envoler qu'avec une charge assez limitée, ce qui limite leur capacité opérationnelle et aussi leur allonge, leur autonomie, puisqu'ils peuvent pas emporter beaucoup de carburant ou beaucoup d'armement.
Alors on sait que Pékin a des prétentions territoriales en mer de Chine. Jocelyn nous demandait concrètement à quoi va servir ce porte-avions, quelles seront ses missions.
Inlassablement, la Chine poursuit ses efforts pour se doter du d'une flotte dite océanique, c'est le terme militaire, en fait c'est une flotte militaire capable d'opérer bien au-delà des côtes. Ça a commencé avec le Liaoning, il y a aussi des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont développés en Chine, ça fait partie de un peu de la même logique. Le Liaoning dont on parlait tout à l'heure a fait quelques déploiements opérationnels, mais la construction d'un véritable groupe aéronaval est généralement long. Le groupe aéronaval, faut bien comprendre, c'est le porte-avions et tout ce qui va autour pour le protéger, c'est-à-dire des frégates anti-aériennes, des frégates anti-sous-marins, des sous-marins. Donc ça, c'est extrêmement complexe. On pense qu'il faut 20 ans quasiment pour fabriquer l'ensemble de ce groupe aéronaval. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que tous les systèmes du porte-avions en propre fonctionnent bien ensemble, c'est-à-dire ses capteurs, ses radars, sa capacité à échanger des données avec les avions, avec les autres navires. Mais il faut aussi que tous les navires puissent communiquer ensemble. C'est ça qui constitue un véritable groupe aéronaval. Les Chinois inlassablement travaillent là-dessus. Ils n'ont pas commencé hier, donc ils vont très certainement y arriver parce qu'ils investissent beaucoup d'argent. Et puis on le sait, ils ont des prétentions territoriales, des prétentions sur une partie de la mer de Chine, mais bien au-delà, puisque le porte-avions c'est un outil de projection de puissance qui finalement serait destiné à être déployé où ? En permanence, par exemple, près du détroit de Formose, ou très loin, c'est-à-dire, par exemple, dans le Pacifique, ou en océan Indien, voire même, pourquoi pas, dans 10, 15, 20 ans en Méditerranée.
Jocelyn, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, allô ?
Oui, a-t-on répondu à vos questions, Jocelyn ?
Oui, très bien.
Merci. Très bien, merci beaucoup. Et merci de nous écouter sur Internet dans la province de Canton, et merci à Olivier Four pour son expertise sur ce premier sous-marin 100% chinois. 33 9 693 604 porte-avions, j'ai dit sous-marin ? Ah oui, porte-avions. Merci Olivier Four, indispensable Olivier. 10h17 à Paris, vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Raphaël.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Kananga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes exactement à 1150 km de Kinshasa.
C'est plutôt au centre, c'est pas l'est.
Très bien, on vous écoute.
D'accord, en décembre dernier, Naomi Mutenga appelle au secours en urgence. Malheureusement, son appel n'est pas pris au sérieux. Et c'est 5 ans plus tard qu'elle sera prise en charge et décède quelques minutes après. Et mes questions sont les suivantes.
Oui.
La première, qu'est-ce qui a motivé la famille Mutenga à porter plainte aujourd'hui, 6 mois après le décès de leur fille? La deuxième question, pourquoi son appel n'a pas été pris au sérieux? Et enfin, la troisième, quelles sont les mesures prises par le gouvernement français pour que de tels actes ne se reproduisent plus?
Alors, les dysfonctionnements du SAMU en France et le cas effectivement de Naomi Mutenga qui a provoqué une onde de choc et qui a créé effectivement la polémique et ouvert un débat sur le fonctionnement du service médical d'urgence. William Deleuze, journaliste au service France de RFI, est à mes côtés. Bonjour William.
Bonjour.
Des marches blanches sont organisées aujourd'hui même en France pour Naomi Mutenga. Tout est parti, rappelons-le, d'un enregistrement révélé la semaine dernière. On y entend une jeune femme au téléphone appeler les secours de Strasbourg, mais à l'autre bout du fil, la standardiste se moque de la jeune fille de 22 ans, elle ne saisit pas l'urgence de la situation, et Naomi Mutenga meurt 5 heures plus tard à l'hôpital. Ses parents, comme le rappelait à l'instant Raphaël, notre auditeur, ont porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Pourquoi a-t-il fallu attendre plusieurs mois, puisque les faits remontent, rappelons-le, à la fin du mois de décembre?
Oui, c'est vrai que la temporalité dans cette affaire est d'abord surprenante, et elle a surpris Raphaël. Les faits datent du 29 décembre, Naomi Mutenga est morte le même jour à l'hôpital, donc 4 mois ont passé, Juan, entre la mort de la jeune fille et le dépôt de plainte de ses parents la semaine dernière. La famille a attendu car elle ne savait pas ce qui s'était passé en ce soir de décembre. Les parents ont d'abord contacté l'hôpital en quête d'une autopsie, c'est-à-dire une analyse du corps par un médecin légiste pour savoir concrètement pourquoi la jeune fille est morte et pourquoi si rapidement. C'est là que l'hôpital semble faire traîner cette autopsie. 5 jours, plus de 110 heures se sont écoulées pour que le corps soit analysé. Pour avoir les résultats, c'est encore pire. Les parents disent avoir attendu 2 mois. On s'est moqué de nous, on nous a baladés. Ce sont les mots du père de Naomi.
Le père de Naomi qui s'est exprimé la semaine dernière lors d'une conférence de presse. Quand est-ce que la famille a eu connaissance du comportement de l'opératrice ?
Eh bien, c'est encore après ces résultats d'autopsie. L'enregistrement de la conversation est parvenu en avril à leur demande. Ils ont écrit une lettre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. La mère raconte « L'enregistrement nous a foudroyés ». On y entend deux opératrices, en réalité, tourner en dérision les appels au secours de Naomi Moussenga. Ce n'est qu'à ce moment-là que la famille fait sortir l'enregistrement dans la presse locale. Et peu de temps après, les Moussenga porteront plainte.
Oui, on entend d'ailleurs cette patiente dire « J'ai très mal, je vais mourir ». Et en face, donc, l'opératrice qui lui dit « Oui, vous allez mourir un jour, comme tout le monde ». Ok, voilà, donc effectivement, cette opératrice ne prend pas au sérieux les souffrances de cette jeune fille. Comment se fait-il justement qu'elle ne prenne pas au sérieux cet appel, elle qui est tout de même formée et qui reçoit à longueur de journée des dizaines et des dizaines d'appels au SAMU?
Oui, vous avez raison, et vous rappeliez les propos de cette opératrice. La voix de Naomi Moussenga est pourtant très faible à ce moment-là. 5 heures s'écoulent entre cet appel et la prise en charge par SOS Médecins. Naomi a fini par les appeler à bout de souffle. 5 heures très précieuses. La standardiste, elle a été mise à pied depuis la sortie de l'enregistrement. L'hôpital de Strasbourg évoque une faute individuelle. Ce sont les premières conclusions de leur enquête administrative. La procédure, normalement, impose aux opérateurs téléphoniques de demander l'avis d'un médecin dans un tel cas, ce que n'a pas fait l'opératrice.
Une erreur individuelle donc, mais les parents, eux, mettent en cause l'hôpital.
Oui, attention au bouc émissaire, à ne pas faire de l'opératrice la seule responsable. C'est ce que disent en substance les parents. Les enquêtes diligentées vont mettre au clair le rôle très concret de la hiérarchie dans l'hôpital. Il y a eu un problème tout au long de la prise en charge et donc toute la chaîne est en cause, d'après la famille.
Raphaël nous demandait quelles étaient les mesures prises par le gouvernement français depuis cette affaire. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est exprimée. Elle a annoncé des choses concrètes ou pas?
Oui, elle a annoncé une mesure possible, probable. C'est la fusion possible des 3 numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18, vers un numéro unique, plus simple pour les usagers et pour le personnel à l'autre bout du fil. Mais c'est quand même tout le système hospitalier français qui doit se remettre en question, d'après plusieurs urgentistes et spécialistes du sujet. Il faudra par exemple accentuer les formations pour que les assistants de régulation médicale, les opérateurs téléphoniques, puissent être mieux formés afin de leur apprendre à ne plus banaliser certains appels. Il faut quand même rappeler que les 2000 opérateurs du SAMU traitent chaque année près de 30 millions d'appels, 80 appels par jour en moyenne par opérateur. Donc, enfin, plusieurs médecins demandent plus de transparence dans un cas comme celui-là. Cela concerne aussi la question de l'autopsie. L'affaire Naomi Moussenga est donc devenue un symbole.
Et l'enquête se poursuit. A-t-on répondu à vos questions, Raphaël ? Raphaël, alors on a perdu Raphaël. Raphaël, on ne sait pas ce qui se passe. J'espère que... Raphaël ?
Allô ?
Oui, on a répondu à vos questions ?
Ah oui, c'est parfait, merci beaucoup.
Et merci de nous écouter donc à Kananga, dans le centre de la République démocratique du Congo. À bientôt, William Deleuceux, journaliste au service France de RFI. Au standard, Olsen est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan,
bonjour à tous. Vous avez des questions concernant la Malaisie?
Oui, effectivement.
On vous écoute.
Pour la première fois depuis 1957, la Malaisie ne sera pas dirigée par la coalition Front National. Alors, comment expliquer cette victoire historique de l'opposition, sachant qu'elle est incarnée par un ancien Premier ministre qui a dirigé autoritairement le pays pendant 22 ans?
Oui, c'est vrai, vous avez raison de vous interroger. C'est vrai que le nouveau Premier ministre de Malaisie s'appelle Mahathir Mohamad, il a 92 ans, et durant 2 décennies, dans les années 80 et 90, il a dirigé le pays d'une main de fer. Bonjour Elsa Lafaille de Michaud.
Bonjour.
Maître de conférence à l'université Rennes 2, spécialiste de la Malaisie. Comment expliquer ce retour spectaculaire de Mahathir Mohamad?
Alors, il me semble que la question porte plutôt sur le fait de savoir si c'est historique ou pas. C'est-à-dire, Mahathir au pouvoir, est-ce que c'est en quoi on peut dire que c'est quelque chose de une vraie transformation, une nouvelle ère qui s'ouvre pour la Malaisie? La réponse, c'est qu'en vérité, le résultat dépasse très largement la personnalité, certes marquante, de Mahathir. Il n'a pas remporté l'élection tout seul. Bien sûr, on peut penser que c'est l'homme de la situation. C'est sans conteste un élément clé de la victoire de l'opposition. Comme vous le savez, l'opposition n'arrivait pas à entamer le pouvoir du Barisan National, le Front National, depuis les années 50. Et là, pour la première fois, on a la victoire qui revient de manière claire et nette à l'opposition.
Oui, mais enfin, elle revient, et c'était l'interrogation de notre auditeur, elle revient surtout par le biais d'un homme qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant deux décennies. On a du mal à comprendre comment se fait-il que la population fasse de nouveau confiance à cet homme qui, en plus d'avoir dirigé le pays d'une main de fer, a tout de même 92 ans.
Oui, alors on peut dire que Mahathir a joué un rôle clé en rassurant les derniers hésitants. Par contre, ceux qui ont remporté l'élection, c'est véritablement la coalition qui s'appelle la coalition de l'espoir, Pakatan-Harapan, qui, la plupart des sièges ont été remportés par le DAP, qui est un parti chinois ancien, le PKR, le parti que Anwar a créé et qu'il a dirigé soit directement, soit depuis sa prison depuis des années. Et puis on a d'autres éléments dans la coalition. Et Pribumi, le parti de Mahathir, est un petit élément de cette coalition. Donc c'est à la fois un grand homme qui a un petit poids dans une coalition large et elle-même beaucoup plus ancienne. Le parti Pribumi est tout récent. Et Mahathir a rejoint l'opposition seulement en 2015-2016, lorsqu'il s'est mis à lui aussi rejoindre le concert d'indignation face à Najib, l'ancien Premier ministre, qui était pris dans un scandale de corruption dont vous savez qu'il... Oui. Il dépasse le milliard de dollars, les plusieurs milliards de dollars de fonds détournés.
Effectivement.
Et donc Mahathir, la réponse, hein, pourquoi encore Mahathir? Les gens en Malaisie vont dire que Mahathir a changé. Mahathir était un homme dans toute sa puissance, autoritaire et populiste dans les années 80-90. Il s'est retrouvé du mauvais côté de la barrière et il a vu à quel point la liberté d'expression en Malaisie était brimée, à quel point la dureté vis-à-vis de l'opposition était en fait délétère et destructrice. Et donc c'est pas exactement le même Mahathir.
C'est pas le même.
Enfin, pour les gens qui étaient toujours critiques de Mahathir, aujourd'hui, ils vont dire mais Mahathir a changé. Et ensuite, c'est à la fois le sujet et pas le sujet.
Oui, mais enfin, en même temps, on peut comprendre que quand on est à l'étranger et qu'on entend effectivement qu'un ancien dirigeant autoritaire revient au pouvoir par la voie démocratique, on peut s'étonner. Et c'est vrai, il dit avoir changé. En tout cas, il a, tout au long de la campagne électorale, expliqué vouloir réparer ses erreurs, a-t-il dit. Donc, on verra ça. On verra s'il concrétise ses promesses électorales. Merci d'avoir été avec nous, Elsa Lafaille de Michaud, et d'avoir répondu donc à notre auditeur de Brazzaville. Il nous reste 3 minutes. Bonjour Zoro Tohan.
Bonjour Monsieur Rouen. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
RFI, vous êtes à Bouaké en Côte d'Ivoire et vous revenez, vous, sur les violences à Gaza en début de semaine.
Oui. Oui. Et avec cette violence. Comment expliquer le silence des pays arabes après la mort d'une soixantaine de Palestiniens tués par les soldats israéliens?
Alors, Sébastien Boussouet est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur associé à l'Université libre de Belgique, spécialiste des relations euro-arabes. Peut-on parler de silence s'agissant des chancelleries arabes après les événements de lundi à Gaza?
Mais globalement, on pourrait parler de silence de la communauté internationale à partir du moment où le droit international ne parvient pas à être appliqué. Il est clair que nous sommes confrontés à des massacres. Pendant que tout se passait bien à Jérusalem, les Palestiniens se faisaient évidemment tuer à Gaza. Je crois que aujourd'hui, pour les pays arabes, un des ferments de l'unité arabe avait été à un moment la cause palestinienne. Je crois que face à la division du monde arabe, la cause palestinienne en a payé le prix. Et aujourd'hui, dans cette lutte globale contre le terrorisme, il y a ceux qui sont d'un côté, il y a ceux qui sont de l'autre. Aujourd'hui, les Palestiniens à Gaza sont considérés comme des terroristes, même les enfants comme les femmes. Cela dit, c'est tout le débat autour de ceux qui sont aussi rapprochés de la frontière. Mais quand vous avez des pays comme l'Égypte qui a signé la paix avec Israël, la Jordanie qui a signé la paix avec l'Arabie Saoudite, aujourd'hui son principal allié dans la priorité régionale et mondiale qui est la sécurisation de l'Iran, c'est-à-dire la mise au ban de l'Iran, on comprend très bien que l'Arabie Saoudite, au-delà de quelques critiques légères, comme ça a été le cas, ne va pas blacklister Israël.
L'Arabie Saoudite qui a le même ennemi commun qu'Israël, l'Iran.
Absolument. Aujourd'hui, la priorité, elle est là. Le front palestinien est globalement relativement stable. Il y a quelques agitations telles que eux le perçoivent de ce côté-là. Donc, il n'y a pas nécessité d'aller plus loin, ni négociation, ni quoi ni qu'est-ce. Aujourd'hui, la priorité est l'Iran, pour Israël et pour l'Arabie Saoudite. Ce qui est fou, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui, les deux principaux alliés militaires et diplomatiques à ce stade-là sont deux frères ennemis, l'Arabie Saoudite et Israël au départ. Il faut quand même rappeler que dans les années 80, Israël était plutôt en train de soutenir l'Iran, ce qui est incroyable, contre l'Irak dans la première guerre du Golfe. Et aujourd'hui, on voit bien que pour des réseaux d'alliances, tout se chamboule. Il y a quelques pays qui ont critiqué fermement et qui ont parlé de massacres à Gaza, comme le Qatar par exemple, mais ça s'arrête là. Oui. Parce que globalement, la priorité est vraiment le nouvel ennemi,
l'Iran. Voilà, donc les Palestiniens qui se retrouvent donc bien seuls pour être défendus dans le monde arabe. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Boussois. Que doit faire maintenant la communauté internationale? Justement, on en parle dans 10 minutes juste après le journal. Vos réactions, 33 9 693 693 70. Et on en parle à quelques heures du début d'un sommet de la Ligue arabe.